ce matin, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, on est dans notre week-end de l'implication. Et parce qu'on est dans le week-end d'implication, on a posé sur toutes les chaises, peut-être tu es là, tu t'es assis, tu n'as pas fait attention, et peut-être c'est possible, tu es assis sur une feuille et un crayon, quelqu'un, tu peux te relever, prendre la feuille, le crayon. C'est comme, nous avons posé sur vos sièges des feuilles pour l'implication parce que nous rêvons d'une église impliquée, d'une église où chacun a saisi la dimension d'entrer dans le service que mon un peu à moi peut faire beaucoup avec tout le monde. Alors c'est le week-end, vous avez des feuilles, des crayons pour pouvoir éventuellement, si vous avez à cœur de servir. Et peut-être c'est pas le cas ce matin. Peut-être vous êtes là, vous dites moi, j'ai pas de temps, j'ai rien à donner et c'est correct. Mais je prie ma prière, c'est qu'à la fin de notre message, tu es saisi que même si t'as pas de temps, t'as un petit peu de temps pour l'Église. Ça c'est mon cœur. Alors vous pourrez, lorsque vous allez sortir, il y aura des placeurs avec les bannettes pour redéposer vos crayons et vos feuilles. Soyez gentils de ne pas garder les crayons avec vous. C'est juste des crayons de bois, ça vaut rien. Puis on en a besoin pour le deuxième service. Je le précise que quelquefois, les gens pensent, hey, c'est un cadeau. Non, non, si tu veux un cadeau, que tu es là pour la première fois, va à l'espace bienvenue, tu vas avoir un livre. C'est beaucoup mieux qu'un crayon de bois, je te le dis. En plus, ils sont tout petits, donc ça sert pas à grand-chose. Henry Ford a déclaré ceci. Il a dit, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Quelqu'un dit amen à la parole d'Henry Ford. Se réunir est un début, et c'est ce que nous avons fait au cours des années passées. L'Église a été lancée sous le ministère de Pasteur David. Merci Seigneur pour ce qui a pris place. Nous avons décidé de nous réunir. Aujourd'hui, 2 ans après, nous sommes encore là. Nous sommes restés ensemble. C'est un progrès. Merci Seigneur pour le progrès. Demain, nous allons travailler tous ensemble, chacun dans des services, chacun à des postes clés, chacun avec des responsabilités, et nous allons bâtir la réussite, non pas la nôtre, mais la réussite de l'Église. Quelqu'un devrait dire amen, juste comme ça, je dis ça, je dis rien. Mais c'est mon rêve de voir chacun d'entre vous au service. Savez-vous que beaucoup d'entre vous, je ne connais pas vos prénoms parce que chaque matin, j'aime aller saluer toutes les gens qui sont impliqués dans les services. Et je fais le tour de tous les lieux et je salue tout le monde. Salut, comment ça va? Merci, on est content que tu sois là. Merci pour la job, merci. Okay, fait. Et je connais leur prénom. Mais si je ne connais pas ton prénom, j'ai besoin de toi dans l'implication. Hey, ça c'est bien vendu, hein? Ça, c'est bien vendu. L'apôtre Paul a déclaré dans sa lettre aux Colossiens, il a rappelé, dans Colossiens 3, 17, il a rappelé l'importance de tout faire, non par nous-mêmes, mais au nom du Seigneur. Et ça signifie que lorsqu'on sert, on le fait pas pour nous, on le fait pas pour notre gloire, on le fait pas pour notre réussite, mais on le fait pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous servons avec un cœur reconnaissant, notre service devient une expression visible et tangible de l'amour de Dieu pour le monde. Lorsque je suis là à la porte, lorsque je t'ouvre la porte, bienvenue, sois présent parmi nous, on est heureux de t'avoir, etc. C'est comme là, je rends vraiment visible l'amour de Dieu pour le monde. Et lorsqu'on réalise qu'on sert pas pour nous, mais pour le Seigneur, ça nous pousse à nous investir, parce que la cause est plus grande, parce que la cause est plus profonde, la cause est plus puissante, et ça nous pousse à nous investir, ça nous entraîne, littéralement dans un engagement, non pas envers les hommes, mais envers le Seigneur Jésus. Faites toutes choses. Et comprenez l'importance de faire toute chose au nom du Seigneur. J'aimerais dire ceci, servir dans l'Église, c'est une chose. Mais servir avec l'Église, c'en est une autre. Certains diront, mais moi je sers dans l'Église, pasteur Seb, je sais pas de quoi tu parles. Mais on peut servir dans l'Église tout en étant détaché de l'Église. Mais ce matin, mon message, ma prédication, c'est pas d'être dans le service, c'est d'être ensemble dans le service. C'est toi, plus moi, plus nous, égale la puissance de Dieu en action. La manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation de la grâce de Christ. Servir dans l'Église est une chose, mais servir avec l'Église en est une autre. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ et qu'on marche avec lui, l'implication et le service au sein de l'Église, ça devient comme une évidence. Mais ça devient une puissance lorsque nous comprenons que nous sommes ensemble. Nous servons ensemble. L'Église n'est pas simplement un lieu de réunion ou une famille spirituelle, c'est littéralement une famille spirituelle où nous sommes tous à la bonne place, tous dans les bonnes fonctions et tous ensemble, nous jouons un rôle précieux. Et Jésus lui-même a montré l'exemple du service. La Bible nous dit que Jésus est venu, puis Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Littéralement, Jésus s'est associé à des gens de mauvaise vie aussi peut-être, parce qu'on est rencontré des aveugles, mais de mauvaise vie. Mais il s'est mélangé aux marginaux, il s'est mélangé aux pécheurs. Il a rencontré toutes ces gens qui avaient des besoins. Il s'est rendu serviteur. Et il a donné sa vie dans un modèle de service désintéressé, d'amour et de compassion pour les autres. Et en tant que disciple de Christ, on est appelé à suivre cet exemple. On est appelé à suivre cette... Souvent, on accepte ce que Jésus a fait pour nous, mais on n'est pas capable de le redonner. Tu sais? On n'est pas capable de le redonner. Et j'aime vraiment cette pensée que Pasteur Claude donne souvent. Il dit, l'amour et le service que Dieu a donné du haut vers le bas nous poussent à l'étendre de gauche vers la droite. C'est ça la croix. C'est ce qui est tombé du haut vers le bas nous pousse à l'étendre de gauche à droite, nous pousse à l'étendre autour de nous, nous pousse à servir les autres avec passion. Service dans l'Église, c'est pas une série de tâches à accomplir, mais c'est littéralement une façon de témoigner au monde la réalité de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est une opportunité de manifester les dons et les talents que Dieu nous a confiés. À travers le service, on peut mettre toutes nos compétences au service du royaume de Dieu. Que ce soit de chanter sur l'estrade comme ce matin, de prêcher comme je vous le fais, mais également de nettoyer les locaux, de préparer le café, d'enseigner les enfants, de visiter les malades, de participer à des projets missionnaires. Chaque acte, chaque service compte pour développer le royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu, j'aimerais dire ceci, quelquefois on a comme on a dans nos têtes une hiérarchie, une échelle des ministères qui conduit à une échelle de la grâce, de la puissance et de l'onction de Dieu. Mais j'aimerais démonter ces schémas en disant que Dieu honore chaque serviteur de la même manière. L'onction sur ma vie n'est pas plus grande que celui qui fait le ménage. Et je pense même que l'onction sur la vie de celui qui fait le ménage est plus grande que la mienne parce que lui, il est courageux. Lui fait des choses quand personne ne le voit. Et j'aime vraiment honorer ces gens-là. On a tous des services différents, mais on a une même onction. Du prédicateur au chanteur, en passant par le portier, l'accueil, les placeurs, les sécurités, les kiosques, toutes les kiosques divers et variés, l'Esprit de Dieu est sur nous de la même manière parce qu'on a reçu la même onction, la même autorité, la même puissance. Quelqu'un doit dire amen. On n'est pas meilleur que vous. On est ensemble. Ensemble, dans une même présence, ensemble, avec une même onction, et nous servons ensemble avec la même passion. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble à la puissance que la cohésion et le travail d'équipe produit dans l'Église. Quand chacun est à son bon poste, ça permet tellement que la puissance de Dieu se manifeste et la synergie dans le travail d'équipe transforme l'Église en un lieu de puissance, en un lieu de service inégalé, en un lieu d'excellence incontestable où la foi et le témoignage concrétisent l'unité, la vraie. Je te prie, Père, je te prie qu'ils soient un. Qu'ils soient un. Je te prie que, alors que le monde le verra, je te prie que les gens voient qu'un, un corps, une Église, un service. Nous devons désirer marcher dans une vie de serviteurs passionnés. C'est une expérience merveilleuse de se rassembler pour vivre l'Église en communauté. Cependant, je crois que l'excellence se manifeste lorsque les membres de l'Église servent passionnément, occupant chacun leur rôle au sein d'une vision et d'une mission partagée. Nous sommes les porteurs d'une vision, mais nous sommes ensemble les porteurs d'une mission que Dieu nous a donnée. Et nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes ensemble dans une même vision, ensemble dans une même mission, non pas la mienne, mais celle de Dieu. Le véritable ensemble ne peut pas exister sans une implication personnelle et collective. J'ai besoin de m'impliquer et j'ai besoin de m'attacher. J'ai besoin de m'impliquer et j'ai besoin de m'attacher. Et j'aimerais ce matin qu'on fasse une lecture ensemble dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, le chapitre 17, les versets 8 à 13. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. Alors que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont commencé le périple dans le désert et il y a une difficulté qui prend place. Et le texte nous dit ceci, il dit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il reposait ses mains, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. J'aime particulièrement ce texte parce que ce texte est la définition de « ensemble ». Ce texte est littéralement la définition de « je suis pas capable tout seul ». J'ai pas les compétences de tout, mais si chacun est à son poste, si chacun fait ce qu'il a à faire, la victoire nous est assurée. Mais à travers ce texte, on découvre également que il y a des hauts et des bas dans l'œuvre. Il y a des hauts et des bas dans le service. Il y a des hauts et des bas dans le ministère. Il y a des combats, il y a des défis, il y a des besoins. C'est pourquoi le rêve de Dieu, comme je disais la semaine passée, le rêve de Dieu, c'est de demeurer ensemble, de demeurer ensemble afin de servir ensemble, afin de se veiller les uns sur les autres ensemble, afin de se protéger ensemble, afin de s'entraider ensemble, mais aussi surtout afin de servir et d'œuvrer ensemble, de serrer les liens pour empêcher l'ennemi de nos âmes de pénétrer, de s'infiltrer, de diviser et de détruire. Il y a une responsabilité que nous avons dans la notion de ensemble, de comprendre que Dieu m'appelle, mais Dieu m'appelle à m'attacher avec les autres. Et dans ce contexte-là, j'aime particulièrement ce passage-là parce que dans le contexte, on retrouve un Moïse qui appelle un Josué. On retrouve un Josué qui appelle des hommes. Et alors que Moïse monte sur la colline, on s'aperçoit que Moïse dit « je vais monter sur la colline ». À aucun moment, il dit « nous allons monter sur la colline ». Il dit « allez battre Amalek et je monterai ». Mais on voit un Aaron et Hur qui décident « on ne laissera pas Moïse tout seul, on va monter avec lui, on ira avec lui ». Le projet nous concerne aussi. C'est ton projet, mais c'est notre projet. La mission est commune, on ne laissera pas quelqu'un tout seul. On ne laissera pas quelqu'un qui est tributaire du danger éventuel. On sera là pour veiller, on sera là pour protéger. C'est comme tellement puissant de réaliser que le véritable ensemble se manifeste et grandit grâce à l'implication personnelle de Moïse qui dit « j'irai », mais grâce à l'implication commune, collective de Aaron et Hur qui disent « tu n'iras pas seul ». Parce que quelqu'un ce matin veut dire « nous, l'Église n'ira pas seule ». L'Église n'ira pas seule. Je serai de ceux qui vont se lever. Je serai de ceux qui vont t'accompagner. Je serai de ceux que peut-être tu n'as pas appelé, mais je serai là. Je vais me tenir à tes côtés. Je vais marcher à tes côtés. Et quand le besoin s'en fera sentir, je serai là. Mes mains seront là pour toi. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le véritable ensemble se manifeste et grandit grâce à l'implication personnelle et collective. Ensemble est le résultat d'une saine motivation qui nous pousse dans l'action. La motivation qui est la mienne, la motivation que Dieu dépose dans mon cœur me pousse dans l'action. Et la motivation, ça vient de nos cœurs. Ça vient de ce qu'on a dans nos cœurs. Et j'aimerais poser la question ce matin, comment va ton cœur ce matin ? De quoi ton cœur est-il rempli ce matin ? Est-ce que ton cœur est rempli de troubles ? Est-ce que ton cœur est rempli de doutes ? Est-ce que ton cœur est rempli de combats, de difficultés ? Ou est-ce que ton cœur est rempli de confiance, d'amour, de désir d'engagement ? Quel que soit l'état de ton cœur, Jésus veut toucher ton cœur afin de rendre ton cœur prêt, disponible, préparé. Ensemble, dans le service, c'est la beauté du rêve de Dieu en action. C'est la beauté du rêve de Dieu à l'image d'un Moïse qui missionne un Josué, d'un Josué qui appelle des hommes, d'un Aaron et d'un Hur qui disent « moi je suis concerné par le projet, je vais accompagner Moïse et je vais l'assister ». J'aimerais dire ceci de manière très claire et on pourrait même arrêter le message ici. Ensemble, c'est chacun à sa place dans une décision individuelle pour contribuer à une œuvre collective en vue d'une victoire du ciel. C'est ça ensemble. C'est moi attaché à nous pour voir la gloire de Dieu tomber sur la terre. Littéralement, Moïse a dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors et combats Amalek. Et qu'est-ce que ça nous met devant les yeux? Ça nous met devant les yeux que Moïse n'était pas capable. Moïse était un leader spirituel. Moïse avait la direction du peuple, direction spirituelle, direction politique, mais Moïse n'était pas bâti, taillé pour la guerre. Et littéralement, lorsque Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek, il dit, fais ce que tu sais faire, fais ce pour quoi tu as les compétences. Ce matin, je dis à quelqu'un dans l'église, fais ce que tu sais faire, fais ce pour quoi tu as les compétences, et je sais, j'ai aucun doute sur le fait que tu as des compétences qui peuvent être mises au service de l'église. Fais ce que tu sais faire. Fais ce pourquoi tu as les compétences. Occupe-toi des tâches et des activités matérielles. Descends dans la vallée avec les hommes que tu auras choisis. Descends pour mener le combat. Moi, je vais me tenir sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Littéralement, Moïse dit, pendant que tu vas faire ce que tu sais faire, moi, je vais faire ce que je sais faire. Et ensemble, on va mutualiser nos compétences afin d'amener une victoire triomphante. C'est pas au sujet que de moi, c'est au sujet de nous. Je suis pas capable de faire tout seul, j'ai besoin de toi. Le texte nous dit, Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. C'est l'obéissance, c'est l'implication qui mène des hommes à s'impliquer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne cède pas aux pensées négatives, mais obéis à la parole de Dieu et implique-toi. L'implication crée l'implication. Réponds à l'appel ce matin. Décide, je serai là. Peut-être je peux donner que une fois par mois, 2 heures, mais je serai là, puis je vais commencer. Je veux servir l'Église. Je veux être participant du royaume de Dieu. Je veux être de ceux qui bâtissent aux côtés de l'Église. Obéis et implique-toi. Moïse et Aaron sont montés au sommet de la colline. Et ça, c'est vraiment l'image que chacun est concerné. Chacun est appelé à être impliqué. Chacun est appelé à tenir son poste pour une victoire collective. Et il est très intéressant de voir que lorsque Moïse dit « Moi, je vais monter », il appelle personne d'autre. Il dit « Ça, c'est ma responsabilité. Moi, je vais y aller. » Mais d'autres se sont sentis concernés. Ils ont dit « Nous, on va aller avec lui parce qu'il peut y avoir des besoins. » Et ça, quelquefois, on pense que le pasteur va faire la job. L'équipe pastorale va faire la job. Puis nous, on va, il nous a pas appelé. Non. Mais c'est pas parce que t'as pas été appelé que tu n'es pas appelé. OK? Écoute bien ça. C'est pas parce que t'as pas été appelé que tu n'es pas appelé. Nous avons besoin de réaliser que Aaron et Hur, à ce moment-là, eux, ils montent, ils sont concernés. Ils disent, nous, on est impliqués. On va tenir notre poste parce que de notre poste, de nos responsabilités, dépend la victoire de l'équipe tout entière. C'est tellement bon de voir que Aaron et Hur ont pas attendu qu'on leur dise, pouvez-vous venir avec moi? Ils ont dit, non, on ira avec lui. Tu nous as rien demandé, mais on sera là. S'il y a un besoin, on sera là. S'il y a une difficulté, on sera là. S'il y a un danger, on sera là. Et le danger est arrivé parce que lorsque la Bible nous dit que lorsque Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. Quelle merveilleuse démonstration de plus j'élève mes mains dans la présence de Dieu, plus la gloire de Dieu se manifeste. Mais quelquefois, certains combats, certaines difficultés, certaines constructions que nous pouvons bâtir ensemble prennent du temps. Et le temps amène la fatigue, le temps amène l'épuisement. C'est pourquoi nous avons besoin d'être des Aaron et des Hur, les uns pour les autres. Nous serons là quand les forces vont te manquer. Nous serons là quand tu vivras une difficulté. Nous serons là quand tu auras un moment de trouble, un moment peut-être où tu ne sauras plus où tu en es. Nous serons là pour t'aider, pour t'équiper, pour te soutenir, pour t'encourager. Et je sais que vous n'avez pas dit amen, mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai 300 personnes qui disent amen, amen, amen. Puis ça réjouit mon cœur. Nous serons là les uns pour les autres. C'est pas au sujet de toi, c'est pas au sujet de moi, c'est au sujet de nous. Nous avons besoin de réaliser cela. Il y a une réalité, lorsque nous lisons ce texte, il y a une réalité, c'est que même lorsque nous sommes ensemble, il y a des combats et des difficultés qui peuvent prendre place. Même ensemble, il y a des difficultés, il va y avoir des temps forts, il va y avoir des temps faibles. Il va y avoir des facilités, il va y avoir des difficultés. Et la difficulté et l'adversité dans l'œuvre ou dans le service sont des réalités. Lorsque tu sers l'Église, lorsque tu bâtis le royaume de Dieu, il va y avoir de l'opposition. C'est pourquoi nous avons besoin non pas d'être isolés dans nos coins, mais nous avons besoin d'être serrés les uns avec les autres, les uns contre les autres. Les mains de Moïse étaient lourdes, fatiguées et faibles dans la durée. Et la fatigue, elle est normale. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu es là, puis tu dis, moi, en ce moment, je suis fatigué. La fatigue, elle est normale. La fatigue, elle est totalement excusable. Il y a pas de problème sur le fait d'être fatigué. Mais nous avons la responsabilité, les uns envers les autres, de nous veiller, de nous surveiller, de nous protéger, de nous garder. Et le texte nous dit que lorsque Moïse est là et lorsque ses mains commencent à être fatiguées, ils sont là pour le soutenir. Ils sont là. Il y a une nécessité de veiller. Il y a une nécessité de s'exhorter. Il y a une nécessité de s'encourager. Et lorsqu'ils voient qu'il y a une difficulté, ils disent pas à Moïse, regarde Moïse, si tu prends une pierre, tu t'assois, ça risquerait d'être plus simple pour toi. Non. Eux, ils prennent la décision. Ils disent, nous vérifions, nous constatons, nous voyons qu'il y a un moment de difficulté. Nous serons là pour combler cette difficulté. Le ensemble nous amène à nous attacher les uns aux autres. Et eux sont là et ils sont ceux qui vont déposer la pierre. Ils prennent une pierre, ils la posent, ils s'assoient dessus, ils reçoivent l'aide et le soutien de ses collaborateurs, Moïse. J'aimerais dire ceci, l'encouragement ne suffit pas. Nous devons aider notre prochain. Nous devons nous engager aux côtés de notre prochain. C'est pas le tout d'encourager les gens qui sont à la porte de l'église et dire « Tu fais un bon job, on est vraiment content. » Mais ça fait combien de semaines que tu es là? 5 semaines! Waouh! Tu es vaillant, tu es courageux. Oui, ça fait 5 semaines que je me suis pas ressourcé. Ça fait 5 semaines que je suis pas, je peux pas vivre un culte parce que j'ai à cœur le service, mais nous devons nous sentir concernés. Aaron et Hur n'ont pas simplement regardé en disant « Nous, on est là juste au cas où un ours viendrait. Ben, » c'est comme les mains de Moïse s'abaissent, ça, c'est pas trop notre problème. Non, non, ils se sont sentis concernés. Ils ont été de ceux qui l'ont pas simplement encouragé, mais ils ont aidé. Ils sont venus assister. Pourquoi? Parce que la victoire dépend parfois de l'autre. Nous avons besoin de réaliser que lorsque je sers, quelquefois, la victoire que nous gagnons, les victoires que nous remportons, ne sont pas forcément mon sujet, mais peuvent être le sujet de l'autre. Et c'est parce qu'eux se sont sentis concernés qu'ils ont embarqué et que la victoire a été amenée. Ils soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Et ses mains restèrent, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que de l'entraide de un ou deux peut naître une victoire collective. De l'investissement de un ou deux peut naître une victoire collective. Nous avons besoin de réaliser que peut-être ce matin, nous sommes les un ou deux. Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. La victoire a découlé de l'implication générale d'une équipe. D'un Moïse qui dit « je monterai », d'un Josué qui dit « je prendrai les hommes », des hommes qui diront « nous t'accompagnerons », d'un Aaron et Hur qui dira « nous serons là si jamais il y a une difficulté ». De l'ensemble, de l'implication collective naît la victoire. « Nous est plus grand que moi ». Nous est plus grand que moi. Nous sera toujours plus grand que moi. C'est pas le résultat de celui qui combat. C'est pas le résultat de celui qui prie. C'est pas le résultat de celui qui est là pour soutenir les bras. Certains pourraient dire, ouais, mais si Aaron et Hur avait pas été là, il y aurait pas eu de victoire parce que les bras de Moïse seraient tombés. Ok. D'autres vont dire, ouais, mais si Moïse n'avait pas prié, il y aurait pas eu de victoire parce qu'il serait pas monté pour prier. D'autres vont dire, ouais, mais si Josué n'était pas allé chercher des hommes qui n'avaient pas combattu, il y aurait pas eu de victoire. La réalité, c'est que c'est pas au sujet de l'un, c'est pas au sujet de l'autre, c'est pas au sujet du troisième, c'est au sujet que chacun a saisi l'importance que je dois être à ma place, je dois faire ce que je sais faire et je vais le faire afin que ensemble, on puisse gagner une victoire collective. Est-ce que tu veux faire partie du ensemble ce matin? Est-ce que tu veux être de ceux qui disent « je vais me lever, je vais servir ». La révélation nous amène ensemble dans la motivation et la motivation nous conduit ensemble dans l'implication. J'aimerais ce matin et rapidement vous donner 4 applications afin de saisir l'importance du « ensemble ». La première application, c'est que nous devons connaître ce qui nous rassemble. Nous devons connaître la source de notre motivation. Et ça lance une question ce matin. Pourquoi tu t'es levé? Pourquoi t'es venu ici ce matin? Pourquoi est-ce que quand je suis arrivé à 6h45, il y avait déjà du monde ici qui travaillait pour que le service vous soit rendu beau et merveilleux? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? C'est quoi la source de ta motivation? La réalité, c'est que nous venons parce que nous voulons accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Nous voulons gagner les âmes ensemble. Nous voulons que l'Église brille. Nous voulons que l'Église soit un exemple. Nous voulons que l'Église soit un lieu de service. Nous voulons que l'Église réponde aux besoins de la ville et aux alentours. Nous voulons que l'Église soit une représentation de Christ sur la terre, alors en attendant qu'il vienne nous chercher. Et parce que nous connaissons la source de notre motivation, nous pouvons nous impliquer. Et c'est la même chose pour les Hébreux. Eux, ils connaissaient la source de leur motivation, c'est que Dieu avait fait une promesse, que Dieu avait dit, voici l'endroit où vous étiez, voici l'endroit où je vais vous amener. Vous allez entrer de l'esclavage à la liberté. Vous allez passer de la misère à l'abondance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu peux passer de la misère de ta situation à l'abondance d'une vie épanouie dans le service et dans ta relation avec Dieu lorsque tu réalises quelle est ta motivation, quelle est la source de ta motivation, qu'est-ce qui t'a amène à te joindre à l'Église. Les Hébreux avaient vu de leurs yeux que Dieu les avait libérés de l'Égypte. Ils connaissaient Dieu, ils avaient vu Dieu ouvrir la mer. Ils avaient entendu la promesse de Dieu d'une terre nouvelle. Et ils avaient foi en Dieu, lequel avait déclaré dans Exode 3, 17, il dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous êtes dans la misère, vers le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Les Hébreux, ils ont vu les plaies s'abattre sur l'Égypte. Ils ont vu que tout le monde a été impacté sauf eux. Ils ont vu la puissance de la grâce, de la protection de Dieu. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils connaissaient Dieu. Ils croyaient en lui. Ils savaient que quelles que soient les difficultés qu'ils pouvaient se présenter, Dieu avait fait une promesse. Dieu leur avait donné une destinée et que Dieu n'était pas ici pour mentir. Que Dieu n'allait pas retirer sa promesse et que Dieu n'allait pas changer son projet. Et c'est tellement fou parce que quand on réalise ça, on connaît la source de notre motivation. Pourquoi est-ce que tu es là ce matin? Tu es là parce que tu sais que Dieu a changé ta vie. Tu sais que Dieu t'a donné la grâce. Tu sais que tu viens non seulement pour le remercier, mais j'aimerais t'inviter à passer un cap au-dessus. C'est t'inviter à venir toujours pour le remercier, pour le célébrer, mais à venir pour aussi le servir. Nous sommes appelés à devenir des serviteurs de Dieu, serviteurs des uns des autres et des serviteurs de Dieu. Si tu t'attaches à une cause, à une église, juste pour suivre le mouvement, sans connaître la source de la motivation, tu vas t'arrêter tôt ou tard. Je te le dis, c'est vrai. Si tu es là ce matin et tu dis « moi j'aimerais ça servir », mais que tu connais pas la source de la motivation, tôt ou tard tu vas caler. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des difficultés. Parce qu'il va y avoir des incompréhensions, parce qu'il va y avoir peut-être des frictions, parce que peut-être il y a des choses que tu vas pas comprendre, parce que peut-être on risque de te parler peut-être un peu mal une fois, quelqu'un va te parler mal, tu dis « Ah ben moi j'abandonne tout ». Non, mais quand tu connais la source, la motivation, tu sais qu'il n'y a rien qui est fait pour te détruire, rien qui est fait pour te briser. Même quelqu'un qui te parle mal, tu sais qu'il a probablement passé une mauvaise journée, on va aller s'expliquer, et ensemble on va rester attachés. Ensemble on va pas commencer à se séparer, parce que sinon on laisse la place à l'ennemi, mais on va rester attachés. Lorsque tu connais la source de ta motivation, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Personne n'avance sans but. La motivation est toujours reliée à un but, et notre but aujourd'hui, c'est pas de faire briller l'Église, mais c'est de faire briller le nom de Jésus dans la ville. C'est ça le but. On vous appelle pas ce matin. Nous n'appelons pas l'Église à se lever juste pour faire briller le nom de l'Église, Nouvelle Vie, mais nous appelons l'Église à se lever afin de faire briller le nom de Jésus à travers la province de Québec. Ce qui motivait le peuple, c'était la destination finale. C'est que ce qui motivait le peuple, ce qui serrait dans leur cœur, c'est qu'ils savaient que même s'il y avait la difficulté, la promesse que Dieu avait faite valait le coup. Savaient qu'il n'y a rien qui les empêcherait d'avancer. Ils n'arrêteraient pas dans le désert. Ils ne mourraient pas dans le désert. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de bon. Et ça, c'était leur source de motivation. J'appelle ce matin des chrétiens à chercher premièrement la révélation qui va faire naître la motivation afin de te conduire dans l'implication. Révélation amène la motivation et la motivation conduit dans l'implication. Si tu ne connais pas la source de la motivation, tu ne pourras jamais t'engager et t'impliquer. Mais lorsque tu réalises de qui est Dieu, de qu'est-ce qu'il a fait, de ce dans quoi il nous appelle, alors les choses peuvent littéralement changer. La deuxième application ce matin, c'est que nous devons saisir la portée de l'enjeu. Il y a toujours un enjeu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on bâtit, dans toute organisation, dans toute église, il y a un enjeu. Et notre enjeu à nous, c'est que nous voulons voir les âmes sauvées. Nous voulons voir des vies transformées. Nous voulons voir des couples renouvelés. Nous voulons voir des familles restaurées. Nous voulons voir Jésus en action dans tous les foyers de la ville de Drummondville, alentour, province de Québec et partout au Canada. Nous voulons voir, nous devons saisir la portée de l'enjeu. Parce que l'enjeu est important, il est présent dans tout ce qu'on entreprend. De notre mariage à l'éducation des enfants, de notre vie spirituelle, de notre investissement dans l'Église, dans tout ce que nous faisons, il y a un enjeu. Il y aura toujours un enjeu dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas décider, dans tout ce que tu vas entreprendre. Et alors que Israël est sur la route pour gagner la terre promise, c'est comme si tout roule. On a passé la mer Rouge, tout va bien. Et là, c'est comme maintenant, on a un boulevard devant nous, nous n'avons plus qu'à entrer, mais il y a un combat qui prend place. Et alors que eux sont appelés à entrer dans un lieu d'abondance et de fertilité, il y a un combat qui prend place, un combat contre la vie, un combat contre leur destinée, un combat contre l'abondance et la fertilité, un combat contre l'unité pour décimer, diviser, avorter, tuer, pour disperser littéralement. Et c'est le même combat que l'Église vit à chaque dimanche. Nous sommes dans un combat de est-ce que nous allons rester unis? Est-ce que nous allons servir ensemble? Est-ce que nous allons rester attachés les uns aux autres au-delà des difficultés, au-delà de ce que nous vivons? Est-ce que nous restons les yeux fixés sur l'enjeu? C'est quoi l'enjeu qui fait que je reste attaché avec mes frères et mes sœurs, quelles que soient les circonstances de ma vie? Nous avons besoin de réaliser ça. L'enjeu prend place. Il y a un combat permanent lorsque tu sers le Seigneur. Ensemble dans le service, pardon, ça va avoir son lot de difficultés. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que moi, je vais faire? Il y aura son lot de difficultés. Qu'est-ce que tu vas faire face à la difficulté? Est-ce que tu vas abandonner, négocier? Ou est-ce que tu vas avoir confiance dans celui qui a fait la promesse, dans celui qui marche avec toi, et dans celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai pas. » T'abandonnerai pas. Je marcherai avec toi. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pas de plus belle promesse qui peut nous motiver pour nous permettre de continuer d'avancer ensemble. Parce que si Jésus est avec moi, si Jésus est avec toi, quand bien même on aurait des désaccords, nous regardons ensemble à l'enjeu. Nous regardons ensemble à la vision, à ce à quoi nous aspirons. Et l'Esprit nous attache les uns aux autres. Ensemble dans le service, c'est voir au-delà des différences qui nous éloignent pour servir le Dieu qui nous rassemble et gagner ceux qui sont loin. C'est ça le ensemble dans le service. C'est on se rend aveugle à nos différences. Et on regarde à celui qui nous rassemble pour gagner tous ceux qui sont au loin. Hier, je suis allé dans un nouveau barbier hier. C'est très marrant parce que je suis allé dans un barbier, puis c'est un barbier, j'ai découvert ça au Québec. C'est un barbier où ça parle cru, tu sais. Le monde des barbiers, tu sais, généralement, barbier, tatou, machin, etc. Là, c'est comme, ça parle cru, là, tu sais. Puis moi, j'arrive ici, c'est un truc sans rendez-vous, donc j'attends comme une heure pour faire ma barbe, là. Et puis pendant ce temps-là, j'entends tout le monde parler, tu sais. C'est comme, c'est fleuri, comme, en France, on dit, c'est fleuri comme langage, tu sais. C'est fleuri comme langage. Puis ça parle bien, tout ça. Puis le gars me prend, et donc il m'installe, et il me dit, oh, que vous arrivez de la France, ouais, vous êtes là pour le passage ou quoi? J'ai dit, mais non, je me suis établi au Québec, là, tu sais. Et puis c'est comme, ça parle, tout ça, des vannes, des jokes et tout ça. Et puis, il me dit, oh, ben, donc, je vais vous poser la question fatidique, qu'est-ce que vous venez faire au Québec? Fait que je dis, je suis pasteur. Et un silence, tu sais, vrai, un silence, tu sais. Puis je regarde dans le miroir les gens qui sont assis derrière moi en train d'attendre, puis ils sont tous comme ça. Tu sais, il y a une réalité, c'est que l'Esprit nous appelle, nous pousse à gagner ceux qui sont au loin, de tes voisins au barbier mal poli, à tout le monde. Et nous avons besoin de tout cela, nous avons besoin de rester attachés les uns aux autres, de témoigner la grâce et la puissance de Christ afin que les gens voient à travers nous, de tous les endroits où ils sont, les gens voient qu'il y a quelque chose de différent en nous et qu'on puisse gagner les gens un à un. J'ai pris les coordonnées du barbier, je vais y retourner. Ça, pour vrai, je vais y retourner. La prochaine fois, je passe un autre cap. Jim Rohn a dit ceci, il a dit « La motivation te sert de départ, l'habitude te fait continuer. » Et j'aime ça parce que souvent, on va dire « Ok, ça, c'est comme une belle phrase de leader séculier. » Tu sais, la motivation te sert de départ, l'habitude te fait continuer. En d'autres termes, on va dire, au début, tu fais les choses par motivation, puis après, comme tu es habitué à faire les choses, ça continue. Puis ça, c'est bon dans le positif, mais c'est bon aussi dans le négatif. Nous avons besoin de réaliser et nous avons besoin d'être habitués qu'il va y avoir des incompréhensions dans le service. Il va y avoir de l'opposition dans le service. Il va y avoir des moments de fatigue dans le service, mais on doit être habitué. On doit être habitué que c'est normal, ça s'en vient, c'est fait pour nous arrêter, mais ensemble, nous voulons rester attachés, ensemble, nous voulons discuter, ensemble, nous voulons nous édifier. Voici mon moment de fatigue actuel, pouvez-vous prier pour moi? Soutenez-moi les gars, et on veut vraiment être de ceux qui restons attachés. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir des déceptions, sois habitué. Il va y avoir des attentes parfois plus longues, des désirs inassouvis, mais sois habitué. Sois habitué que tout va pas rouler comme tu l'as prévu dans ta tête. L'ennemi va toujours chercher à te diviser, toujours chercher à te déstabiliser. Mais sois habitué. Lorsque tu es habitué, il n'y a plus rien qui t'effraie. Quand tu connais les pièges de l'ennemi, t'es plus déstabilisé de rien et rien ne t'empêche d'avancer. Juste de réaliser que nous avons besoin de savoir, nous sommes habitués. J'ai appris avec 20 ans de ministère, j'ai appris que des gens m'aiment pas. 20 ans de ministère, j'ai appris que des gens sont pas d'accord avec ce que je prêche. J'ai appris que des gens m'aiment bien. Heureusement, j'ai appris qu'il y a des choses que je dis que parfois j'ai comme commis des erreurs puis j'ai pu blesser des gens. J'ai appris que des gens m'ont blessé. J'ai appris. Je suis habitué. Mais en tout ça, là, je corrige mes fautes, j'appelle les gens à corriger les leurs, mais je veux rester attaché au corps de Christ afin de bâtir l'Église, parce que bâtir l'Église est un ouvrage d'envergure. Bâtir l'Église est un ouvrage d'envergure. Aimer les gens. Aimer les gens est un ouvrage d'envergure. Accueillir les gens est un ouvrage d'envergure. Servir est un ouvrage d'envergure. Quel que soit l'endroit où tu peux t'investir, tu vas accomplir un ouvrage d'envergure. Mais ensemble, lorsque nous bâtissons tout ça, nous entrons littéralement dans le rêve de Dieu. Mon application numéro 4, c'est que nous devons faire notre part. Dans ce texte, nous voyons que chacun a décidé « je vais faire ma part ». Chacun a dit « je suis capable de faire ça, puis je vais y aller ». Josué a pris des gens qui étaient des hommes de guerre. Moïse était un leader spirituel, il est monté à la rencontre de Dieu. Aaron et Hur étaient des soutiens pour Moïse, ils ont accompli leur job avec brio. Ensemble, nous devons faire notre part. Dans chaque situation, l'implication de tout le peuple est présente. Pendant que j'appelle les musiciens juste à venir, et j'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant. Je suis là pour te servir. J'aimerais te dire que dans toute situation, dans tout ce que nous vivons, nous allons avoir à faire notre part. Israël, c'est le texte que nous avons lu, littéralement, est comme une représentation vétérotestamentaire de l'Église. Ça veut dire que, littéralement, c'est comme si on avait une photo dans le passé de l'Église d'aujourd'hui. Littéralement, nous avons un groupe de croyants avec un leader, avec des gens qui sont dans des différents services, et nous avons un combat qui prend place. Et notre combat aujourd'hui, c'est nous ferons briller l'Église et nous élèverons le nom de Jésus au-delà des difficultés, au-delà des contraintes, au-delà de la pression. Et j'aime vraiment cette image parce que Moïse est la représentation du pasteur. Aaron et Hur est littéralement la représentation des collaborateurs de l'équipe pastorale. Et tout le peuple et les membres, c'est l'Église, le corps que nous formons. Et chacun réalise, chacun saisit que j'ai besoin de m'investir. L'Église a besoin de moi. Le succès de tout le monde dépend aussi de moi. On est tous appelés à servir, tous appelés à s'impliquer, tous appelés à percevoir que le succès d'une œuvre est possible par l'implication de tous. Le succès est possible par l'implication de tous. L'Église ne nous appartient pas, elle est l'épouse de Christ et nous, on fait que la bâtir afin qu'elle soit sans défaut et sans tâche lorsque Jésus va revenir. C'est ça qu'on fait. On fait juste que bâtir l'œuvre que Dieu a mis sur nos cœurs. Ne soyons pas des membres sclérosés, endurcis ou paralysés, mais décidons ce matin ensemble, je vais porter ma part dans l'ouvrage afin que l'œuvre grandisse et que le royaume de Dieu s'établisse. Nous devons prendre conscience, littéralement, que si un peu fait beaucoup, ce peu va s'user, se décourager et abandonner. Si un peu fait beaucoup, mais si tu inverses la tendance, et si beaucoup font un peu, alors ce beaucoup va s'encourager, va s'édifier, va se protéger, et ensemble nous allons célébrer qu'est-ce que Dieu fait dans l'Église. C'est pas au sujet de moi, c'est pas au sujet de toi, c'est littéralement au sujet de nous. Si beaucoup font un peu, s'encourageront, se protégeront, et se réjouiront de l'œuvre bâtie. Moïse a pas dit, regardez-moi faire, je vais monter sur la montagne, puis je vais faire quelque chose de grand. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un qui a un temps pour tout. Lorsqu'ils sont face à la mer, Moïse dit au peuple, en ce moment-là, soyez silencieux et regardez. C'est puissant, reste avec moi. Lorsqu'ils sont devant la mer, le peuple dit, on va mourir, c'est fini pour nous, on aurait dû rester en Égypte, tatati, tatata. Mais Moïse dit, installez-vous, faites silence et regardez qu'est-ce que je vais faire avec la puissance de Dieu. Et lorsque la mer s'ouvre, le peuple passe, le peuple réalise qu'il y a une autorité lorsque nous marchons avec Dieu. Puis à ce deuxième tour-là, Moïse dit simplement, il ne dit pas « regardez-moi à nouveau », il dit non, il dit « ce que vous avez vu de moi la dernière fois, aujourd'hui c'est le temps où vous allez le vivre avec moi ». J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut que tu vives l'Église d'une manière différente. Dieu veut que tu serves avec lui et pour lui. Et lorsque Moïse est là, Moïse dit, Josué, fais ça. Josué dit aux autres, fais ça. Aaron dit, nous, on va faire ça. Et c'est tellement puissant, tellement grand de réaliser que rien n'a été fait par un, mais tout a été fait par tous et pour tous. Moïse a demandé l'implication de tout le monde, chacun selon sa capacité, pendant que lui faisait sa capacité. Ma conclusion ce matin, c'est que le succès d'une œuvre, le succès de l'Église, ne se bâtit pas sur un seul, mais sur un ensemble de personnes qui visent ensemble dans la même direction. Sur quoi tes yeux sont fixés ce matin? On connaît tous ce proverbe qui dit « Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. » Nous avons besoin d'emmener l'Église loin ce matin. Nous avons besoin d'amener le nom de Jésus loin ce matin. Nous avons besoin d'amener le nom de Jésus plus loin, plus haut, plus grand que jamais dans les temps que nous vivons aujourd'hui. J'appelle ce matin une Église à être unie et à se lever pour servir et bâtir. Une Église à revenir à celui qui motive, à une Église qui réalise l'enjeu, une Église qui visionne la taille de l'œuvre et qui désire s'impliquer pour faire ce qui est en son pouvoir pour bâtir l'œuvre de Christ et faire avancer le royaume de Dieu. Dans le même temps de ce passage-là, Moïse priait, Josué conduisait, Aaron et Hur soutenaient. On n'est pas tous appelés à être sur le front, on n'est pas tous appelés à être des intercesseurs, on n'est pas tous appelés à être des soutiens pour les leaders, mais on est tous appelés tout simplement. On est tous appelés tout simplement. Est-ce que pendant qu'on se lève ensemble un instant, est-ce qu'on peut comme juste reprendre ce chant merveilleux qui dit « Ici, dans le secret, à l'abri de tous, c'est juste entre toi et moi, Seigneur. » Puis ce matin, peut-être à l'écoute de ce message, j'aimerais que tu puisses parler à mon cœur. J'aimerais que tu puisses peut-être me donner des directions, me donner des convictions. On n'est pas tous appelés à faire la même chose, mais on est tous appelés dans le service. Est-ce qu'on peut déclarer comme une prière, « Seigneur, ce matin, je suis là pour te servir. Je suis là pour t'obéir. Je veux que ma vie te glorifie. » Ça commence dans le lieu secret, dans une révélation que tu nous donnes, afin de recevoir la motivation et d'aller dans l'implication. Nous voulons servir ce matin le roi des rois et faire avancer le royaume de Dieu au Québec. Et l'Église, littéralement, a besoin de toi.